France Info.
France Info.
Un monde d'info attiré par la promesse d'un travail de domestique bien payé. Des milliers de Malgaches ont quitté leur famille pour les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït ou encore Liban. Grosse désillusion une fois sur place, de domestiques, la plupart deviennent esclaves. Il y a un an, le gouvernement malgache a donc pris des mesures, interdit le départ des travailleurs non qualifiés vers le Golfe. Mais le trafic des domestiques esclaves, lui, se poursuit toujours. Nous irons ensuite en Inde, où les défenseurs des droits de l'homme s'interrogent sur la liberté d'expression dans ce pays. Il y a une semaine, 9 étudiants ont encore été arrêtés dans l'état du Kerala, c'est dans le sud du pays, pour avoir publié des mots croisés satiriques impliquant des hommes politiques. La petite histoire du jour, elle nous emmènera en Chine, où des milliardaires fanatiques de cru de Bordeaux ont franchi la ligne rouge. Ils ont été rattrapés par la commission anti-corruption du Parti communiste, accusés d'avoir détourné des millions d'euros de fonds publics pour assouvir leur passion pour le vin français. Elles sont malgaches, souvent illettrées, par milliers réduites en esclavage dans les pays du Golfe, en Arabie Saoudite, au Koweït ou encore au Liban. Ces mères de famille, attirées par la promesse d'un travail de domestique bien payé, quittent ce pays via des agences de placement privées. Une fois sur place, passeport confisqué, salaire non versé, elles vivent des conditions de travail très difficiles quand elles ne sont pas victimes de mauvais traitements. L'été dernier, le gouvernement malgache a donc adopté un décret interdisant le départ des travailleurs non qualifiés vers le Golfe, mais un an plus tard, le trafic de domestiques se poursuit dans l'illégalité à Madagascar. C'est un reportage d'Aurore Delabrosse.
Minuit à l'aéroport international d'Ivat à Antananarive. Un vol en provenance de Paris ramène le cercueil de Solange, 34 ans, décédée en Arabie Saoudite. La jeune femme était partie un an plus tôt pour travailler comme domestique, nourrie, logée, payée $200 par mois. C'est du moins ce que lui avait promis l'agence de placement malgache. Son mari, venu récupérer le cercueil, raconte.
Après son arrivée, elle n'a touché que 2 mois de salaire, puis elle n'a plus rien reçu jusqu'à sa mort. Notre dernier contact remonte au 27 décembre 2013. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle ne serait bientôt plus parmi nous et qu'on devait prendre soin de nos 2 enfants.
La cause de sa mort reste jusqu'à ce jour indéterminée. Chaque année, elles sont des centaines à quitter Madagascar pour partir travailler en Arabie Saoudite, au Koweït ou au Liban. Mais pour certaines, le voyage tourne au cauchemar. À leur arrivée, le passeport est confisqué par l'employeur. Elles n'ont plus le droit de sortir et travaillent jusqu'à 20 heures par jour, sans percevoir leur salaire. Souvent sous-alimentées, battues, violées, parfois même emprisonnées. Quand elles parviennent à rentrer au pays, elles débarquent sans argent ni bagages, comme Zital, 39 ans, qui a travaillé 7 mois en Arabie Saoudite.
On ne mangeait pas, on ne recevait pas de salaire et mon patron était très sévère. Un jour, il m'a jeté de l'eau de Javel dans les yeux. Et comme la plaie empirait, j'ai fini par m'enfuir et je me suis fait arrêter par la police.
Face aux nombreux cas de maltraitance et à plusieurs décès non élucidés, le gouvernement malgache a interdit l'envoi de travailleurs vers le Moyen-Orient en août 2013. Cela n'empêche pas certaines agences de placement de continuer leur activité de manière illégale. Elle s'appuie sur un réseau de fonctionnaires corrompus, plus ou moins haut placés, dont certains possèdent eux-mêmes des agences. Au ministère du Travail, Samuelson Ramanchignoni, directeur général de l'emploi.
Il crée des agences, il se fait représenter par quelqu'un, donc il protège ces gens-là. Ce n'est pas seulement avec les agents de notre ministère, mais peut-être aussi avec, disons, le PAF, la police de frontières. Il y a des agents spécialisés qui s'en occupent, qui facilitent leur accès dans l'avion.
Pour chaque travailleur envoyé dans le Golfe, une agence touche environ 2 000 $, 1 500 euros. Et les candidates à l'émigration ne manquent pas dans un pays où 92% de la population vit avec moins de $2 par jour.
Il y a une agence ici, à Madagascar, qui est en relation avec une agence en Arabie Saoudite. Donc le gain se partage entre ces deux agences-là. C'est pur et simple trafic de personnes, quoi. C'est de la traite.
Les responsables d'agences, eux, se font discrets. Ils sont de toute façon rarement inquiétés par la justice, malgré la plainte déposée par le mari de Solange. Les sanctions restent administratives, fermeture de l'agence ou retrait d'agrément. Antananarive, Aurore Delabrosse, France Info.
La liberté d'expression est-elle menacée en Inde? En tout cas, dans l'état du Kerala, au sud du pays, 9 étudiants ont été arrêtés par la police dimanche dernier pour avoir publié des mots croisés satiriques impliquant des hommes politiques, dont le Premier ministre. Et c'est la deuxième fois que des étudiants sont arrêtés pour la même raison en une semaine. D'autres interpellations ont également eu lieu dans d'autres états. Une dérive inquiétante pour les défenseurs des droits de l'homme à New Delhi. Les explications de Sébastien Farcy.
Un mot croisé d'un journal universitaire communiste dans lequel le nom du Premier ministre est transformé en insulte. Un autre magazine d'étudiants qui a publié une galerie de la honte où Narendra Modi apparaît aux côtés d'Adolf Hitler et d'Oussama Ben Laden. Ces faits ont valu à leurs auteurs d'être arrêtés sur la base d'un article du Code pénal qui réprime tout propos écrit ou oral pouvant entraîner l'hostilité ou la haine entre deux communautés. Ceci dans le but d'éviter des troubles à l'ordre public. Des politiciens des deux bords étaient visés dans ces pages, mais ce sont les groupes proches du parti au pouvoir à New Delhi, le BJP, qui ont porté plainte, et ils l'ont fait dans l'un des seuls états, le Kerala, où celui-ci n'a remporté aucun siège de député. Pour Meenakshi Ganguly, représentante de Human Rights Watch en Asie du Sud, il faut réformer ces lois pour empêcher ces abus.
La Cour suprême a dit que la liberté d'expression devait être protégée à tout moment, sauf quand il y a la preuve de la préparation d'actes violents. Or, depuis quand le fait de ridiculiser un politicien représente un trouble à l'ordre public? Ces lois sont trop vagues et sont donc utilisées pour empêcher toute dissension.
Narendra Modi a assuré ces derniers jours qu'il respecterait l'opposition, mais au niveau local, ses affiliés ne semblent pas aussi tolérants. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Info.
Ils étaient trop gourmands ou en tout cas trop attirés par les vins français. Deux milliardaires chinois, véritables fanatiques des crus de Bordeaux, sont aujourd'hui sur la sellette, rattrapés par la commission anticorruption du Parti communiste. Les deux hommes étaient entrés en compétition, c'était à celui qui réussirait à ouvrir la plus grande cave à vin de Bordeaux sur la côte est du pays. Résultat, ils sont accusés d'avoir détourné 32 millions d'euros de fonds publics pour arriver à leur fin et acheter au total 14 vignobles du Bordelais à Pékin, Philippe Reltien.
Château de Bordeaux ou château de Chine? Il y a deux ans, après avoir visité Saint-Émilion et acheté 8 châteaux bordelais, M. Chu annonçait l'ouverture chez lui en Chine de la plus grande cave à vin dégustation de Bordeaux, avec 600 logements, 20 villas bourgeoises et 30 hectares de vignobles. On pouvait déjà s'accouder sur les fûts en chêne dans un donjon recopié de la lointaine banlieue de Dalian où quelques vraies côtes de bourg importées de Bourg-sur-Gironde, du château Chenu, étaient versées sous le nom chinois de château Lamont.
Sous nos yeux, un réel tonneau de chêne gravé France, vraiment de production française. Vous entendez? Maintenant, allons nous rendre compte de l'avancement du rêve de Monsieur Chu.
La toccade de Monsieur Chu n'a pas résisté à l'examen des incorruptibles de la commission d'inspection et de discipline du parti qui ont découvert que 32 millions d'euros versés pour l'achat de technologies étrangères ont servi à l'achat de 14 vignobles bordelais. À l'État chinois maintenant de dire à qui appartiennent ces vignobles et si partie d'entre eux vont devoir être saisis dans le cadre de l'entraide judiciaire. Dans le cas de Dalian, Monsieur Chu est autant visé par l'enquête que son rival Monsieur Niu, qui lui voulait construire sa cave à vin de Bordeaux dans des abris anti-atomiques. Pékin, Philippe Reltien, France Info.